Alors, bonjour à tous en ce mardi 3 octobre, ben, votre émission de Vues et Voix. Et on vous parle de toutes sortes de sujets ici, hein, des sujets extrêmement variés, alimentation, mode, sujets insolites de toutes les sortes, et parfois un peu de voyage.
Un peu de voyage, un peu de Michel, voyage, vous me faites toujours
de,
voyager.
De nature et de science, voilà. Alors, aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre? Louis?
Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler avec moi d'un perroquet dépensier, également de Playmobil. Y avez-vous joué? Eh bien, nous en parlerons, nous verrons. Et puis, quelques autres petites insolites ici et là, si nous avons le temps.
Waouh! Perroquet dépensier. J'ai... Alors, de mon côté, le thème qui m'est assigné le mardi, c'est l'alimentation.
Oui.
Ce matin, cependant, on va glisser vers l'alimentation liquide et je vais vous lire un texte sur les expertes de la mixologie. Et en deuxième partie, un texte de Marie-Claude Lortie qui nous prévient. Attention, on va y goûter.
Oh! Goûter à quoi, au juste?
Nous le saurons, ben, oui, à partir de...
Alors, vous avez entendu les voix de Louis de Bernice et Sylvie Dion. Et de mon côté, ben, je suis Michel Audet. Et je vais vous amener faire un tour à Grenade. On parle beaucoup de l'Espagne ces jours-ci. Hein? Mais on va descendre vers le sud, c'est tout à fait différent. En Andalousie. Et je vous avais annoncé un sujet que je n'ai pas traité la semaine passée, faute de temps, c'était l'atrazine. Alors, on va y revenir bientôt.
Parfait.
Alors, Louis...
Parlons d'animaux ce matin, qui sont tous plus impressionnants les uns que les autres. On parle d'oiseaux de temps en temps avec Michel. J'en ai un à vous présenter, un oiseau justement, et qui... Il est particulier, il fait des choses particulières. Corien Petrorius, interrogé par le tabloïd britannique, ne se rappelait pas avoir passé une commande de coffret cadeau d'une valeur de 10 livres, environ 17 dollars canadiens. Et pour cause. Après avoir exclu son mari et son fils de 8 ans comme les acheteurs éventuels, la Sud-Africaine de 39 ans, qui réside dans le sud-est de Londres, a découvert le coupable, Buddy, son perroquet du Gabon âgé de 5 ans. L'oiseau non seulement a réussi à passer un achat, mais tenez-vous bien, l'oiseau a imité sa voix en son absence pour activer l'appareil et procéder à l'achat, qui, selon un porte-parole d'Amazon, cité dans le Sun, peut être remboursé, heureusement. Je ne pouvais pas le croire quand j'ai compris que Buddy avait passé une commande sur Amazon. Nous possédons l'appareil depuis 4 mois et je ne l'utilise que pour mettre de la musique ou faire des listes de tâches à faire. Mais je n'ai jamais rien commandé en ligne, a raconté Corienne. Outre la possibilité de passer des commandes sur Amazon, l'appareil connecté, qui s'appelle Alexa, permet aussi de commander le chauffage de la maison, contrôler le téléphone portable, vérifier la météo, etc. Buddy a depuis été filmé par sa propriétaire, les images le montrant en train d'activer l'appareil en criant « Alexa !» avant d'ajouter « Oh, reste en ligne, Alexa !» Selon Corien Petrorius, son oiseau parlant est très drôle. Il imite aussi le chat, jure en afrikaans, et souhaite bonne nuit quand la maisonnée va se coucher le soir. Il a donc ajouté une nouvelle tâche à sa liste de tâches quotidiennes, à savoir passer des commandes en ligne en imitant la voix de sa propriétaire.
Incroyable quand même, les limites de la domotique.
Oui, oui, c'est pas appuyer sur des boutons, là, vraiment, on rentre dans un tout
voix,
nouveau
oui.
domaine.
Mais particulier, j'ai bien aimé l'imitation de perroquet.
À froid en plus.
C'est lui.
Alors, on va passer des perroquets au bar. Alors, le matin, comme ça, on n'a pas pris de café encore et on s'en va aux expertes de la mixologie. Ces femmes derrière le bar. Ce ne sont pas des servantes de bar, la traduction de barmaid, mais des érudites du cocktail.
Oh.
Les femmes sont de plus en plus nombreuses derrière le zinc et elles remportent les grands concours internationaux. C'est un texte de Ève Dumas dans la presse du 30 septembre. Le mois dernier, Caitlin Stewart est devenue la meilleure bartender au monde à la suite de sa victoire au World Class, un immense concours organisé par Diageo, une multinationale de produits alcoolisés. Les femmes sont nombreuses comme jamais derrière le bar et elles montent sur les podiums des concours de cocktails les plus prestigieux. Aucun classique ne leur échappe. Elles vous préparent un boulevardier, un vieux carré, un bambou ou un French 75 en un tournemain. Peut-être qu'elles vous suggéreront même quel gin et quel vermouth marier pour que votre Negroni goûte le ciel. Disons qu'on est loin d'un épisode de l'émission Barmaid 2 où une des protagonistes se demande si elle devrait ou pas se faire poser de gigantesques implants mammaires. Le terme barmaid n'est d'ailleurs pas utilisé dans le milieu des bars à cocktails et barman ne fait pas non plus l'affaire. On dira plutôt bartender, mot neutre et non sexué. Après l'image, il y a « Moi, en tant que femme, je fais comment pour rivaliser avec le stéréotype du bartender à moustache et à bretelles ?» lance Kate Bushell de l'Atwater Cocktail Club, qui a mis un peu de temps à trouver sa place dans tout ça. Mais Caitlin Stewart, elle, est bien loin de la petite controverse qui a secoué le milieu québécois du cocktail lors de la diffusion de la première saison de Barmaids. Plusieurs bartenders québécoises ont été offusquées par l'image projetée de leur métier, mais certaines plus encore par l'effort de quelques collègues masculins qui sont venus à leur défense sans les consulter avec une parodie « Bartenders ». Mais tout ça est aujourd'hui chose du passé. Le seul commentaire que Caitlin a émis sur le sujet de la présentation des femmes dans le milieu du bar, nous l'empruntons à Esquire.com. Et je cite, « Dirions-nous, mon Dieu, ça fait 3-4 hommes de suite qui remportent le World Class? » Fin de citation. Non, mais quand des femmes gagnent deux fois de suite, c'est important. C'est comme si ça voulait dire « On est ici pour rester. » Et je suis fière de faire partie de ce groupe. Récemment, l'accession d'une jeune femme à un poste de bartender senior dans une institution de Londres a fait les manchettes. C'était la première fois en 100 ans. Mais revenons à Caitlin. Elle est en effet la deuxième femme à avoir gagné le World Class en autant d'années. Les 7 concours précédents ont été remportés par des collègues de sexe masculin. Sur 57 concurrents cette année, il y avait 5 femmes. Est-ce qu'il y a moins de femmes dans le milieu ou moins de fibres compétitives? Un peu des deux peut-être. Celle qui tient le bar du Royal Dinette à Vancouver depuis son ouverture il y a 2 ans n'avait participé qu'à une poignée de concours locaux. C'est une collègue et ancienne finaliste qui lui a suggéré de soumettre sa candidature au World Class. Je suis arrivée là avec l'attitude d'une fille qui voulait apprendre et qui était tout simplement heureuse de côtoyer plein de bartenders extraordinaires, nous a-t-elle raconté au téléphone. Dès le premier jour de compétition, j'ai traité les juges comme s'ils étaient des clients assis à mon bar. Je suis restée naturelle dans la mesure du possible. Je pense que le fait d'avoir projeté une personnalité enjouée et accessible a joué en ma faveur. Si elle est aussi à l'aise et sociable, c'est peut-être parce que la femme de 31 ans a aujourd'hui 12 années d'expérience derrière le bar. On ne dit pas derrière la cravate. Pour preuve, sa manière ludique de rembarrer les clients machos. Par exemple, elle raconte « Il y a beaucoup d'hommes d'affaires à mon bar, et de temps en temps, il y en a un qui commande, sans le savoir, un cocktail servi dans une coupette. Il demande alors d'avoir un vrai verre d'homme. Je lui réponds qu'il n'y a rien de plus viril que de boire dans un verre dont la légende veut qu'il ait été créé en l'honneur d'un des saints de Marie-Antoinette. » Et tout d'un coup, le cocktail a bien meilleur goût. Alors, on voit tout de suite l'image d'une coupette parce que je ne savais pas ce que c'était.
Une coupette de champagne,
oui,
s'il vous plaît.
C'est cela. Ouais. Alors, comme toute métropole foodie qui se respecte, Montréal a vu les bars à cocktails ouvrir par dizaines ces dernières années. Les restaurants se sont également dotés de programmes cocktails dignes de ce nom. Attiré par l'aspect créatif d'un métier qui n'avait pas nécessairement besoin de se pratiquer en décolleté plongeant et en talons hauts, des femmes se sont alors lancées, répondant à l'appel du cocktail artisanal. Un groupe Facebook privé, Les Grandes Dames du Cocktail, a même vu le jour pour permettre aux femmes d'échanger sur les réalités féminines du métier. Kate Bushell dirait sentir une petite victoire à chaque client qu'elle réussit à impressionner avec ses mouvements élégants et ses cocktails impeccables. « Des fois, je suis la seule bartender et les clients commandent à mon barback, son assistant. Ça me fait toujours un petit velours quand je l'entends répondre « Catherine sera avec vous dans un instant ». Cependant, il semble que plus on évolue dans le milieu, plus on est admiré pour ses compétences. Reste que la présence de concours par et pour les femmes bartenders, comme le populaire Speed Rack, et la présence de groupes de cocktailiennes sur Facebook, de même que l'existence d'associations de femmes dans le milieu du whisky, entre autres, démontre qu'il y a encore du chemin à faire. Alors voilà sur la présence des dames qui ont investi le monde de la mixologie.
Ça paraît bien dans un CV, hein? Érudite du cocktail. Érudite,
oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé l'expression.
Ouais, particulier. Et la coupette, j'ai bien aimé la coupette aussi. Une coupette de...
Hey, on apprend des choses en lisant.
C'est incroyable. Ben oui.
Par ici, le vent vient du nord. Peut-être se tourner les pieds pour voir de ton bord. À quoi ça sert? Ça sert plus à rien. Quand tes deux cheveux emmêlés sont noués comme il faut. Moi j'allais dire, j'irai jusque là. Tu tournes les pieds puis tu changes les pas. Puis ça fait mal mais ça fait du bien. Quand t'enfonces tes ombres dans mes mains. Ici, court le temps file, l'horloge est brisée, nous perce des grilles. Puis je tiens à toi, mais je veux pas couler. Retiens ton sable, le vent va souffler. Je sais pas pourquoi, mais moi j'espère. Malgré les cendres, malgré la guerre. Puis des horloges, tu vas en voir passer. Le temps que tu prends pour respirer. Du nord, peut-être tourner les pieds, mais il est un peu temps. À quoi ça sert? Ça sert plus à rien. Quand tes deux cheveux emmêlés sont noués comme il faut. Moi j'allais dire, j'irai jusque là. Tu tournes les pieds, puis tu changes les pas. Puis ça fait mal, mais ça fait du bien. Quand t'enfonces tes ongles dans mes mains. Puis ça fait mal, mais ça fait du bien. Quand t'enfonces tes ongles dans mes mains.
C'était la nouveauté du duo Soul et Sister. Ça s'intitule Les pieds noués.
Ah, c'est très joli, hein?
Oui.
Très harmonieux. Bon, on s'en va en Andalousie. On a entendu beaucoup parler de...
On est plus en Catalogne, c'est
en Catalogne, temps, ouais. Hein, en Catalogne, les Catalans. Les Catalans qui ont une langue particulière, hein, qui est, même si on parle l'espagnol, c'est difficile. Et parfois, je trouve qu'elle est plus proche du français. Le catalan, je veux dire. Alors, moi, j'amène en Andalousie, donc c'est dans le sud, Grenade. Où on trouve une culture maure, juive, chrétienne. Et Grenade, c'est une ville unique en son genre. Elle mérite vraiment d'être visitée. Dans la langue, la gastronomie, l'architecture, la décoration, la musique, on perçoit 5 siècles d'occupation arabe qui ont marqué, bien sûr, l'histoire de l'Espagne. C'est au 8e siècle que les premiers berbères ont conquis le sud de l'Espagne. Et à partir du 11e siècle, l'Andalousie a vu déferler une arrivée, mais absolument massive, d'Arabes. Elle est devenue en Europe le centre de la civilisation musulmane et arabe. Grenade en a été le foyer de la culture. Au 13e siècle, les chrétiens espagnols reprirent les califats de Cordoue, Séville, Jerez, Cadiz vers 1250. Et la seule ville qui a résisté, si on veut, qui a subsisté, c'est Grenade, qui a connu pendant 2 siècles un âge d'or. Si on va à Grenade, on se doit d'aller à l'Alhambra. Alhambra qui vient de l'arabe, qui est Al-Amra, qui veut dire la rouge. Pourquoi? Ben, en raison de la teinte que prennent ces pierres au soleil couchant. Et c'est magnifique. Et les palais, les fontaines, les jardins fleuris de lauriers, de roses, d'espèces anciennes, le jardin du général Ife. La résidence d'été des sultans qui a été créée en 1238. Et les jardins, on se promène à l'intérieur, il y a des fontaines. C'est vraiment une merveille aller à Grenade. Et au-delà de la pierre, il y a un rempart qui s'élève à l'horizon, le plus haut massif espagnol, la Sierra Nevada. 3470 mètres quand même. Et il faut y revenir le soir. Avec l'éclairage, parce que l'Alhambra est éclairée le soir, donc ça prend une teinte tout à fait différente. Je me souviens toujours d'être allé dans les hauteurs et de voir en bas l'Alhambra et tout à coup la pétarade. Aujourd'hui, je serais très craintif, mais c'était un feu d'artifice qui partait et c'était un souvenir extraordinaire. Autre endroit, une balade dans Albacén. Juste en face de l'Alhambra, la colline de l'Albacén, déroule des ruelles sinueuses. On dit que même les Grenadins aiment s'y perdre à certains moments. C'est différent. Bordé de murs blanchis à la chaux, et c'est encore, bien sûr, d'après l'arabe, Al-Bayhissin, qui veut dire les misérables. Et le quartier le plus ancien de Grenade, et c'était à l'époque de la dynastie Nasrid, peuplé de musulmans démunis qui fuyaient, bien sûr, la conquête espagnole. Et il a abrité les artisans de l'Alhambra. Et aujourd'hui, assez curieusement, il cohabite les plus pauvres, sans moyen pour louer ailleurs, mais aussi les plus riches, où on trouve des propriétés magnifiques. La chapelle royale, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ça vous dit peut-être quelque chose. Les rois catholiques, on les même qualifie des rois très catholiques, oui. Et grâce au pape, nommé très catholique, pour avoir achevé la Reconquista, la Reconquête, et chassé les derniers musulmans d'Europe. Eh oui, en 1492... Ça vous dit quelque chose, 1492?
On pense,
Christophe Colomb. Oui, c'est la période de l'Inquisition, hein, Inquisition implacable, mais aussi garantie des expéditions de Christophe Colomb, Isabelle la catholique. On se doute pourquoi un peu à ce moment-là, pourquoi on envoyait Christophe Colomb en Amérique. Il y avait aussi une partie catholique à l'intérieur de ça, hein? Évangéliser. Ben oui, c'était ça la conquête en même temps. Et là, elle repose dans la chapelle royale, une œuvre majeure. Gothique espagnol, 16e siècle, adossée à la cathédrale, qui a remplacé une mosquée. Ce qu'on trouve souvent en Espagne, même, vous avez tous, j'en ai parlé, la mezquita, la mosquée est à l'intérieur, la cathédrale à l'extérieur. Plus de 5 siècles plus tard, les volontés de la reine fanatique sont toujours observées. Il y a une messe quotidienne et il y a un cierge qui est allumé 24 heures sur 24. Alors, par respect à Isabelle, la très catholique. Juste derrière l'Albacén dont je viens de vous parler, il y a une communauté de gitans qui vit dans des habitations semi-troglodytiques. Vous savez, des espèces de cavernes, si on veut, qu'on voit à différents endroits. Et au service des nobles, pour les entreprises guerrières, les travaux de forge, le dressage des bêtes, ils furent persécutés au 18e siècle pour le refus de se sédentariser et, bien sûr, de s'assimiler. Ils ont toujours eu une culture, même une langue très différente, et c'est un peu partout à travers l'Europe. Hein. La découverte de la relique d'un évêque, On parle toujours de catholicisme, des rois et reines catholiques. Donc, la découverte de reliques d'un évêque fit de leur refuge un lieu de pèlerinage, tout à coup. Alors, au 19e siècle, les gitans offrirent des spectacles de flamenco. Ben oui, c'est de là que ça origine. Hein? Aux pèlerins, et c'était très particulier, leur communauté s'est beaucoup réduite. Le lieu a perdu de son authenticité, mais on peut encore se laisser prendre avec le tourbillon des rabes de volant, les talons qui claquent et le flamenco hein, qui attire toujours un peu, particulièrement en Andalousie. Et Grenade est fameuse pour sa situation géographique idéale, sa gastronomie, son art de vivre, mais il attire chaque année, Grenade attire 60 000 étudiants. Sur une population de 300 000, c'est quand même énorme. Il hante les petits bars à thé, les nombreux comptoirs à tapas du centre, les bistrots qui servent une cuisine de montagne, etc. Et un endroit particulier qui s'appelle Los Italianos. Ça fait drôle en Espagne, hein? Mais on en trouve un petit peu partout, le Los Italianos, à travers le monde. Depuis 1936, cette institution propose un festival de parfum, spécialité, la cassata. C'est une tranche de glace vanille, chocolat fraise avec noisettes et fruits confits. Et les indolents s'abandonnent au bassin de massage traditionnel du hammam, qu'on trouve aussi un petit peu partout. Hein. Le hammam qui s'appelle Al-Andalus. Étonnant, hein? Et c'est reconstitué à partir d'anciens bains turcs. Alors voilà, je vous dis, aller en Espagne, particulièrement si on va dans le sud d'Espagne, il faut aller voir Grenade, qui est une ville absolument à découvrir, magnifique, et il ne faut pas manquer l'Alhambra, bien sûr.
Michel qui nous fait voyager. Je vais continuer sur cette thématique du voyage de manière un peu insolite, comme à mon habitude. Gardez bien en tête que je ne fais que rapporter des nouvelles. Hein. C'est important dans celle-là, ce n'est pas moi qui me cache derrière les idées comme celles que je vais vous décrire. Dimanche, c'était il y a 2 semaines, le comportement suspect d'un Sri Lankais de 45 ans a attiré l'attention des gardes de l'aéroport de Colombo. On l'a appelé pour un examen plus approfondi après que les douaniers eurent remarqué qu'il marchait avec difficulté et semblait avoir mal, a déclaré leur chef. La fouille a révélé que le suspect avait de l'or enveloppé dans du plastique qu'il le dissimulait et qu'il le dissimulait, je cite, « enfoncé dans le postérieur ». Les policiers ont sorti, tenez-vous bien, pas moins de 7 petits lingots et 6 chaînes, l'ensemble étant valorisé à 4,5 millions de roupies, soit environ tout de même 40 000 dollars canadiens.
Ben voyons donc.
L'homme travaillait de profession, donc ce qui s'appelle être une mule pour un réseau de trafiquants, et s'est vu infliger une amende de 100 000 roupies, environ 800 dollars canadiens. La marchandise a bien évidemment été saisie avec des gants. La contrebande d'or au Sri Lanka intervient généralement pour blanchir de l'argent ou transférer des fonds provenant du trafic de drogue, a indiqué le chef de la police.
Blanchir, dans ce cas, est un bon terme.
Exactement. Oui, on dit des fois, l'argent n'a pas d'odeur. C'est pas toujours vrai.
On arrêtera là les jeux de mots, mais tout le monde a bien compris, je pense.
Non pas qu'on s'ennuie, mais... mais j'ai un petit texte sur le bâillement. Le bâillement est-il contagieux? Alors, c'est mythe et réalité dans la presse.
Ah oui.
Le mythe, si on se fie au nombre de fois où on bâille après avoir vu quelqu'un bâiller, on pourrait croire que cette affirmation est juste. Mais y a-t-il une explication plus scientifique? Alors, en réalité, le bâillement est un signal envoyé par le corps pour l'avertir d'une baisse de vigilance. Si on en croit le spécialiste à la tête du site web bâillement.com, car oui, il existe un site bâillement.com. On bâille quand on s'ennuie, quand on a sommeil ou qu'on se réveille, quand on est rassasié ou fatigué, quand on vient de faire l'amour aussi. L'effet contagieux du bâillement ou sa reproduction serait bien sûr involontaire. Il surviendrait en fonction du niveau de vigilance du spectateur slash receveur. Quelqu'un qui est engagé dans une tâche intellectuelle soutenue ne bâillera pas à la vue d'un bâilleur. Le bâillement serait aussi fonction du degré d'empathie d'une personne, une affirmation contestée par certains spécialistes cependant. D'après une étude réalisée auprès des primates, cet effet du bâillement communicateur toucherait environ 55 % de la population. Et je suis ravie de constater que personne n'a bâillé pendant la lecture.
Alors voilà, je vous parlais d'un roi très reine, très catholique. Alors, où est Dieu? Dieu est partout. Bien, aux États-Unis, au Portugal, il y a des paroisses qui utilisent un logiciel de reconnaissance faciale pour vérifier la présence, mais surtout l'absence, de leurs fidèles au service religieux. Ils peuvent ainsi sermonner ceux qui s'absentent trop souvent et récompenser les paroissiens qui sont les plus assidus. Reconnaissance faciale. Hein? Alors, nous faisons une brève pause et nous vous reviendrons avec plein d'autres sujets de nature, de toutes sortes de nature.
Tous plus intéressants les uns que les autres.
Oui.
J'ai buté toutes ces saloperies d'un petit tour d'hélico et y a plus que moi dans la prairie. Regarde la banquise vide, y a plus un ours là-dedans. On fera pousser des arachides dès qu'il y aura plus tous blancs et les Indiens, les Esquimaux qui se plaignent tout le temps du réchauffement, qui s'achètent des frigos s'ils veulent tellement claquer des dents. Je peux tout seul. Je veux tout seul. Et si un jour la mort me cueille, je veux pas de pleurs, je veux pas de deuil. Je peux tout seul. Je suis tout seul.
foncer à l'info à chaque vague d'attentats suicides. On peut surfer plus haut, montrer des morts, monter des murs. Faut entretenir le stress et casser les rêves du futur. La peur c'est bon pour le business. Je peux tout tout seul. Je veux tout tout seul. Et si un jour
Le récent extrait de son album Endorphine, qui s'intitule « Tout, tout seul », c'était Daran sur Canal M.
Alors, on passe à Louis.
Retombons un peu en enfance ensemble. Parlons de Playmobil. Je ne sais pas à quoi vous jouiez étant petit. Moi, j'ai beaucoup joué au Playmobil. Pour certains, ce sont les Lego ou d'autres marques, d'autres choses. À chacun, ses petits bonhommes. Eh bien, allons en Angleterre, où une histoire singulière, qui se termine heureusement bien, s'est produite. L'histoire de Paul Baxter. C'est un avertissement aussi pour ceux qui laissent leurs enfants jouer avec des petits objets sans supervision. L'histoire de Paul Baxter est un avertissement, comme je le disais. Ce Britannique de 47 ans a consulté son médecin pendant cet été-là à cause d'une violente toux qui l'embêtait depuis un an. Le diagnostic a été documenté dans le British Medical Journal. Compte tenu de ses antécédents, à savoir un fumeur qui avait souffert d'une pneumonie, un examen approfondi a été demandé. Après avoir pratiqué une bronchoscopie, les médecins découvrent, je cite, « un corps étranger de couleur moutarde » qui obstrue une bronche. Cela laisse présager le pire. En essayant d'extraire l'objet, ils se rendent compte que ce n'est pas une tumeur, ouf. Mais que c'est en fait un tout petit cône de sécurité routière, Playmobil, qui devait être logé là depuis bien une quarantaine d'années. Paul Baxter a dû avoir des Playmobil pendant sa jeunesse. Mais il ne s'en souvenait pas. Il ne se souvenait surtout pas d'en avoir avalé un. Enfin, plutôt, pas avalé, mais d'en avoir littéralement inhalé un. Les médecins pensent que c'est le premier cas, je cite, « de corps étranger trachéobronchique par inhalation accidentelle », où le corps en question, le mini-cône, est resté coincé dans les voies respiratoires d'un patient pendant si longtemps, sans provoquer le moindre symptôme. Le patient a dû « consommer » entre guillemets le cône alors qu'il avait une dizaine d'années, mais ce n'est qu'à la fin de la quarantaine qu'il a commencé à ressentir de la gêne à cause de sa présence dans ses bronches. Cela peut être dû, écrivent les médecins, au fait que l'aspiration a eu lieu à un âge si jeune que les voies respiratoires du patient ont pu se reconstruire et s'adapter à la présence du corps étranger. Autrement dit, les bronches de Paul Baxter se sont développées autour du petit cône. Une fois l'objet retiré, la toux a disparu et Paul Baxter est allé raconter son histoire sur la BBC avec un grand sourire. Il a essayé d'expliquer comment il en était arrivé là en donnant quelques petits détails sympathiques supplémentaires. Je cite « Le docteur m'a dit que j'avais inhalé car si je l'avais avalé, il aurait dû traverser le corps, mais non, je l'ai inhalé, c'est allé directement dans les poumons », disait-il tout fier à la caméra. On ne sait pas d'ailleurs si c'est fait exprès, mais pendant cette séquence, cette entrevue peu commune, on ne sait pas si c'est une blague de Paul Baxter lui-même ou des équipes de la BBC, ou simplement si c'est le hasard de l'humour anglais de haut niveau, Mais pendant toute l'entrevue, quelqu'un se baladait en arrière-plan avec un cône de sécurité routière de taille bien réelle et bien en évidence. Voilà pour l'histoire de ce Britannique qui surveillait vos enfants.
Quelle histoire étonnante.
C'est quand même curieux que ce soit un cône et non pas une botte ou n'importe quoi d'autre.
Non, la sécurité avant tout.
Mais nous, à Montréal, on est habitués que les cônes de sécurité nous bloquent la respiration, nous bloquent la circulation.
Passer de la respiration au goût. Marie-Claude Lortie dans la presse du 26 septembre qui nous prévient. Si vous croisez le chef Fred Morin de Liverpool House et compagnie ces jours-ci et que vous lui demandez « Et puis, quoi de neuf? » Il y a de bonnes chances qu'il vous parle de comestible. On se demande ce qu'on va faire avec ça. Comestible, c'est la traduction que je propose, selon Marie-Claude Lortie, pour edibles, le mot anglais courant est vastement populaire par les temps qui courent pour désigner le cannabis qui se mange. Bière, tartelettes, bonbons, thé, biscuits évidemment, mais aussi gâteaux, mousse, sauce et soupe. Mmh. L'univers de la marijuana qui se déguste, qui se croque, qui se mâche est rendu à des années-lumière des biscuits aux potes et des brownies aux haches de notre adolescence.
Pour ceux
qui sont un petit peu plus vieux que les Playmobil. Si bien que les chefs aussi se demandent maintenant, avec la légalisation prochaine du pot au Canada, ce qu'ils devraient en faire. Surtout que, selon l'étude de l'Université Dalhousie, les Canadiens sont quand même curieux d'y goûter au resto. Vous servira-t-on bientôt des pâtes au pesto de Marie, au restaurant, ou de la vinaigrette à l'huile de cannabis? Pas impossible du tout. Vous aimez la glace au matcha, peut-être apprécierez-vous celle à la marijuana? Jujube, tablette de chocolat aromatisée, barre tendre, quand on se balade sur les sites web d'entreprises qui ont déjà largement plongé dans le domaine, comme la compagnie canadienne Mota ou l'américaine Leafly, on voit de tout. Des bonbons qui ressemblent aux Smarties, des granolas sans gluten, mais avec extra THC. Les mots « fines herbes » n'auront plus jamais la même signification. Non plus que l'adjectif « fumée ». Ce ne sont pas tous les chefs, cependant, qui voient l'avenir avec du pot dans leur cuisine. Si Daniel Vézina répond « pourquoi pas » quand on lui demande s'il a l'intention de cuisiner le pot, Martin Picard, lui, rétorque qu'il n'y voit aucun intérêt. Interrogé sur la possibilité de servir de la Marie à manger, Jen Hagg, restauratrice de table populaire à Toronto, comme le Black Hoof ou l'Agricole à Montréal, répond elle aussi « probablement pas ». Bref, au Québec, mis à part quelques aventuriers, la cuisine qui gèle demeurera essentiellement celle des crèmes glacées et des sorbets. J'aimerais savoir ce qu'il y a à faire sans les effets néfastes, affirme Vincent Dion-Lavallée, qui est chef à la cabane du pied de cochon, et qui n'est pas non plus super enthousiaste devant le nouveau défi. Mais peut-être que ça va devenir le trou normand des années 2000, note-t-il avec humour. Avec le pot qui déclenche les fringales folles et les restaurants comme le sien, plus que prêt à combler ses envies. Mais Dion-Lavallée admet que tout ce champ d'exploration culinaire deviendra difficile à éviter totalement, surtout pour les jeunes. Partout en Amérique du Nord, le sujet est en voie de perdre son aspect tabou. En avril dernier, par exemple, l'hebdomadaire The New Yorker a publié un long portrait de Laurie Wolfe, une auteure et cuisinière de l'Oregon, que les médias américains ont surnommée la Martha Stewart des comestibles. Dans l'article, on note maintenant que plus de 20 % des Américains vivent dans des États où le cannabis est légal, non seulement à des fins médicales, mais aussi pour le plaisir. Donc, cet univers est en explosion. On investit et on développe partout, incluant dans le garde-manger. Madame Wolfe, donc, qui pratique le pot comestible depuis toujours, est ainsi devenue une ressource quasi nationale. Non seulement elle éduque et écrit sur la question, mais elle vend aussi des produits intégrant la Marie, comme des truffes au chocolat et des craquelins au fromage. Madame Wolfe est aussi une ressource importante sur l'art de cuisiner, de servir et d'ingérer le cannabis pour que celui-ci soit non seulement délicieux, mais juste assez efficace, et pas trop. Elle conseille par exemple de commencer par de très petites doses et tient à souligner que les effets prennent du temps à se faire sentir, entre 45 minutes et 2 heures, contrairement à ce qui arrive quand on fume. Il faut donc être prudent. Conseil prodigué entre des recettes de tarte à la citrouille et de saumon petit pois sur un site web dont les photos pourraient très bien figurer aussi sur un site comme Ricardo ou Donahey. On est rendu loin des clichés du poteux grano avec extra babiche. Dans l'article, on explique même que la cuisine aux potes fait maintenant partie des nouveaux rituels à Los Angeles, par exemple, où des convives paient jusqu'à 500 $ par personne pour qu'un chef vienne leur préparer un repas complet, aromatisé et infusé d'herbes en tout genre. Et tout ça légalement, évidemment, une réalité peut-être encore difficile à digérer pour ceux qui ont grandi dans la crainte d'être pris en possession de ces drogues herbacées. Il s'est vendu pour 6,7 milliards de dollars de marijuana légale en 2016 en Amérique du Nord, ce qui est une hausse de 30% par rapport à l'année précédente, une vague qui ne fera pas marche arrière. Dans les médias américains, qui se fient en général aux chiffres de la maison de recherche ArcView, on affirme qu'on est face, socialement et économiquement, à un phénomène de croissance qui ressemble à l'arrivée de la large bande passante ou à l'Internet au début des années 2000. Bref, peu importe ce qu'on en pense, on va y goûter.
On va peut-être arriver avec des menus. Vous savez, actuellement, des menus piquants. Vous avez deux piments, trois piments. On arrivera peut-être avec deux cocottes, trois cocottes, quelque chose du genre. Alors, tel qu'annoncé et promis la semaine dernière, d'ailleurs, la Trazine. Et ce n'est pas tiré de Québec Science, on pourrait penser, je m'appuie beaucoup, dans... c'est tiré de l'actualité du mois de mai. Alors, la norme canadienne, la Trazine, c'est un pesticide. Hein? La norme canadienne pour ce pesticide qu'on retrouve dans l'eau potable est plus permissive que celle de l'Europe. Équiterre révélait récemment que l'eau potable des Montréalais et des Torontois, comme probablement celle de millions d'autres Canadiens, renfermait des traces d'atrazine, qui est un pesticide dangereux. Cet herbicide est interdit en Europe depuis 2004, mais le ministère de la Santé du Canada est sur le point de reconduire son approbation. Assez étonnant, hein? L'atrazine est un des pesticides les plus utilisés au Canada et aux États-Unis. Elle est omniprésente dans l'environnement, dans les eaux de surface et aussi dans les eaux souterraines. Des analyses menées par le ministère de la Santé du Canada, protection de l'environnement, sur près de 15 000 échantillons d'eau souterraine dans ces deux pays, ont par exemple révélé des traces dans un échantillon sur 5. Ça m'apparaît beaucoup, hein? Et ça, des concentrations allant jusqu'à 2,3 microgrammes par litre. On va retenir ce chiffre-là, j'y reviendrai, parce qu'on verra les normes internationales. 2,3 microgrammes qu'on a trouvé dans l'eau souterraine, ici. Au Québec, l'atrazine est présente dans toutes les rivières, à proximité des cultures de maïs et de soya, selon des analyses menées par le ministère du Développement durable. Pas étonnant, donc, que les analyses commandées par Équiterre en aient révélé dans l'eau de Montréal et de Toronto. Et il faut dire aussi que l'atrazine se dégrade très lentement dans l'environnement. En Europe, l'atrazine a été interdite au nom du principe de précaution, quand il est devenu évident que cet herbicide s'infiltrait très fréquemment dans les eaux souterraines. Au Québec, les agriculteurs l'utilisent de moins en moins et lui préfèrent maintenant le glyphosate. Le glyphosate, c'est le Roundup. J'en ai déjà parlé du Roundup. Donc, enfin, on y reviendra peut-être. Roundup de Monsanto. L'atrazine reste le pesticide qui représente le plus grand risque pour l'environnement au Québec. Et la norme canadienne qui s'applique aussi au Québec, est plutôt permissive. La concentration d'atrazine n'a pas dépassé, dans l'autre convention, de consommation est de 5 microgrammes. Oui, 5 microgrammes ici, 3 aux États-Unis et 0,1 en Europe. Et je vous avais mentionné tout à l'heure que les concentrations qu'on était où, c'est 2,3, hein, 0,1 en Europe. L'Organisation mondiale de la santé, pour sa part, organisme respectable, je pense, recommande de ne pas dépasser 2 microgrammes. Et on est à 2,3 ici, dans les eaux souterraines. Et toutefois, de plus en plus de doutes planent sur la solidité des études qui servent de base à l'approbation ou à l'interdiction des pesticides. Le problème vient du fait qu'on ne peut pas faire avec les pesticides ce qu'on fait avec les médicaments, c'est-à-dire les tester sur l'être humain. Hein? Et on ne peut pas mener d'essais cliniques avec un groupe aveugle, bien sûr. Pour déterminer si un pesticide est dangereux, les autorités examinent avant tout les études toxicologiques menées sur des animaux qui sont beaucoup moins standardisés, donc moins fiables que des essais sur des humains. Des études épidémiologiques sur l'humain, bien moins exposées que les amphibiens des poissons, donnent des résultats beaucoup plus sujets à controverse. Équiterre considère l'atrazine comme un perturbateur endocrinien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le fœtus et les enfants sont plus vulnérables en raison de l'influence du système endocrinien sur leur développement. Une étude chez l'humain suggère également que les femmes enceintes exposées à l'atrazine à des niveaux semblables à ceux détectés dans des analyses dont je vous ai parlé avaient un plus grand risque de donner naissance à un bébé de petit poids. Une étude n'est jamais suffisante pour constituer une preuve irréfutable. Alors, le ministère de la Santé du Canada, plusieurs autres autorités réglementaires estiment que les études toxicologiques menées sur des animaux et le faible risque mesuré par les études sur l'humain ne justifient pas de l'interdire. Bon, enfin, ben, les autorités incluent dans leurs analyses des études menées par l'industrie. En 2016, des chercheurs australiens et américains ont passé en revue les études sur la toxicité animale de l'atrazine par rapport aux concentrations trouvées dans l'environnement. La conclusion de leur analyse, ben, me semble assez évidente. Les études financées par l'industrie concluent beaucoup moins souvent à la toxicité de l'atrazine que les études indépendantes. Ben, ça me semble une évidence. Hein? Les Monsanto Papers, par exemple, révélés dans un procès en cours aux États-Unis, laissent penser que cette multinationale envisageait de faire appel à des auteurs fantômes. Des auteurs fantômes pour défendre le glyphosate, le Roundup. Hein. Le stratagème aurait consisté à confier à des universitaires, donc des gens respectables, crédibles, confier à des universitaires contre rémunération des articles scientifiques trompeurs rédigés à l'interne et publiés dans des revues savantes sous leur nom afin de camoufler le conflit d'intérêts. Il y avait un article intéressant récemment, il y a quelques semaines, justement sur des recherches universitaires qui sont souvent très biaisées et qui apparaissent dans des revues, et il y en a plein aux États-Unis, des revues pseudo-scientifiques. Vous savez, vous donnez un nom à la revue et n'importe quoi peut être publié. Des chercheurs même paient pour apparaître dans ces revues-là. Donc, c'est évident que ça peut être tout à fait biaisé. Syngenta, c'est qui commercialise l'atrazine. Est-elle plus vertueuse que Monsanto? Est-ce que c'est plus dangereux que le glyphosate? Impossible d'affirmer catégoriquement. Le Québec pourrait très bien, comme l'Europe, décider d'interdire l'atrazine comme le réclame Équiterre au nom du principe de précaution. Mais rien n'indique que dans l'état actuel des choses, cela ne ferait pas augmenter l'usage des autres herbicides. Donc, on passe de l'un à l'autre, hein, du Roundup à l'atrazine. Plus que l'interdiction, la réduction des quantités utilisées et leur contrôle devaient être la priorité des priorités au Québec. Alors que Québec espérait en 2011 diminuer du quart l'usage des pesticides d'ici 2021, ben, les ventes continuent d'augmenter et non pas de diminuer. Donc, c'est quand même inquiétant, hein, cette chose sur l'atrazine, qui est quand même un poison. On avait beaucoup parlé du Roundup. J'ai fait un papier là-dessus sur le Roundup, d'ailleurs. Alors, très questionnant, la prise de position.
C'est que la conscience est élastique.
Oui, tout à fait. C'est un article qui a été écrit par Valérie Borde dans l'actualité du mois de mai.
qui nous parlait de potes de marijuana, eh bien je poursuis sur ce sujet-là. Au printemps dernier, le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi visant à moderniser et à réviser les lois existantes sur l'utilisation de véhicules de toutes sortes, d'aéronefs et de navires, après la consommation d'alcool ou de drogue. Cette révision découle de l'intention du gouvernement fédéral de légaliser la consommation de marijuana à des fins récréatives d'ici juillet 2018. Or, la définition d'un navire fournie par le projet de loi exclut les embarcations qui sont propulsées, je cite, « exclusivement par la force musculaire ». Tenez-vous bien, des quelques 8,6 millions de bateaux circulant au Canada chaque année, 60%, plus de la moitié, ne sont propulsés que par des humains et par des bras. Le Conseil réclame donc que le projet de loi soit amendé de sorte à inclure tous les types d'embarcations. Le débat va donc se poursuivre. Pourra-t-on un jour naviguer en planant ? Affaire à suivre.
On se promène d'un domaine à l'autre, mais on reste dans l'assaisonnement. Des assaisonnements à tailler. Les OCNI, O-C-N-I pour objets comestibles non identifiés. Tel est le nom de cette surprenante entreprise franco-québécoise qui vient tout juste de commercialiser son premier produit. L'idée est de développer une gamme d'objets qui changent notre manière de manger. Leurs assaisonnements à tailler remplissent cette mission avec trois saveurs qui se présentent sous la forme de crayons dont on vient tailler des copeaux à l'aide d'un petit aiguisoir. Un geste ludique qui ajoutera une touche esthétique et une explosion de saveurs à nos assiettes. Il y a présentement trois saveurs, citron et sel, piment et ail et sauce soya et cèpe. Ça coûte 25$ le trio ou 12$ l'unité et c'est offert dans quelques points de vente. Vous pouvez voir sur le web OCNI, O-C-N-I. Cute, hein?
Alors, une bonne nouvelle. Après une lutte de longue haleine, le Sri Lanka a finalement vaincu le paludisme. Vous voyez, paludisme, c'est quand même très, très, très important. Ça a été, je ne sais pas si c'est là encore, je ne l'ai pas vérifié, mais ça a été la première cause de mortalité au monde. En Afrique, c'était répandu absolument partout. Alors, il y a 50 ans, c'était l'un des pays, je parle du Sri Lanka, les plus touchés par cette maladie transmise par les moustiques. Les cas, ils sont restés nombreux jusqu'à l'an 2000, date à laquelle des campagnes d'éradication ont été lancées. L'introduction massive de certains insecticides, j'espère que c'est pour de la toxine, d'insecticides pour éliminer les moustiques, la distribution de moustiquaires, ça semble élémentaire, hein? Simplement moustiquaires. La distribution sur une grande échelle et la mise sur pied de cliniques mobiles ont permis d'intervenir en zone rurale où vivent 80 % des habitants. C'est bien qu'en 2001, le nombre de cas avait déjà chuté de 68 % Il aura fallu 15 ans pour venir à bout du fléau. Le pays est le deuxième d'Asie à avoir éradiqué la maladie après les Maldives. Mais c'est encore très répandu. Malaria, paludisme, je veux dire qu'il y a aussi le nom de malaria. Mm-hmm. Ça dépend des pays, en Amérique du Sud. Mais c'est très répandu dans le monde, malheureusement. Alors, voilà, Sri Lanka 1, paludisme 0.
Toujours en Asie, toujours à propos de la santé. C'est une première en Chine, une Chinoise a été cryogénisée. En mai dernier, une Zhan Wenlin décède à l'âge de 49 ans d'un cancer du poumon. Son mari, à l'initiative de l'opération, espère qu'il sera possible de la ressusciter quand la science aura vaincu la maladie du siècle. Pour ceux que ça intéresserait, je vous donne la procédure. Ça dure environ 55 heures de se faire cryogéniser. Il faut compter 2000 litres d'azote liquide. On est ensuite conservé à moins 196 degrés Celsius. Il faut savoir qu'à ce jour, plus de 300 personnes tout de même sont cryogénisées dans le monde. C'était la première en Chine, mais la plupart de ces personnes se trouvent aux États-Unis, dans deux entreprises leaders du marché. Voilà, comptez tout de même environ 50 000 dollars. Il faut mettre un peu de sous de côté.
Ça donne froid.
300 personnes dans le monde.
Ça donne froid dans le dos. Hein?
Okay.
Alors, mes amis, je pense qu'on est déjà rendu à la fin de l'émission. Alors, merci à Sylvie Dion, Louis de Bernis, mes fidèles compagnons et compagnes de chaque semaine, et aussi, bien sûr, à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde, les choix musicaux. Et vous entendez sa voix aussi, ben oui. Alors, vous pouvez communiquer avec nous, vusezvoix.com, et ben, restez avec Vusezvoix, hein, parce que dans quelques instants, vous aurez la revue de presse avec Hélène Denis. Alors, on vous remercie aussi de votre présence, de votre fidélité à chaque semaine. On est en rediffusion, d'ailleurs, à 13h, 18h30. J'avais manqué une partie où vous voulez nous réentendre. 13h, 18h30. Alors, on vous souhaite une bonne journée.
Bonne semaine.
Bonne semaine.